Merci Julien Pondaven et Lucia Penazzi. Du coup, maintenant, on a le temps de débat, de discussion. Voilà. Alors, madame, là-bas. Ensuite, ça sera madame. S'il vous plaît, le micro. Voilà. Et toujours, on a un temps compté, mais on peut parler. Mais soyons brefs et concis, comme on l'a été toute cette après-midi. Madame, représentez-vous, qu'on vous entende bien.
Élodie Martini-Cousty, pilote du réseau Océan, Mer et Littoraux de France Nature Environnement. Je voulais d'abord remercier le sénateur Labbé ainsi que tous les intervenants pour leur présentation qui ont bien éclairé cette journée et les problèmes qui touchent à la conchyliculture et au choix de société qu'on nous propose. J'étais il y a 2 jours à l'UNESCO, c'était la journée mondiale des océans. Et je pense qu'il est temps de réagir. J'abonderai dans le sens de Julien Pondaven pour que ceux qui ont envie de faire bien aillent vite et le fassent et n'attendent pas qu'on leur dise de faire comme ci, comme ça. Parce que les effets du réchauffement climatique, de l'acidification des océans vont, et ont déjà commencé, vont être des facteurs de stress supplémentaires pour les milieux naturels. Donc je pense qu'il faut agir très vite pour restaurer la qualité des milieux marins, et c'est ce que nous essayons de faire en France en mettant en place la directive 4 stratégie pour le milieu marin, avec beaucoup de mal parce qu'en effet l'État a de moins en moins de moyens et il y a des résistances absolument partout, on le voit. Mais il faut absolument restaurer ça. Et je pense que si on veut faire un lien avec les consommateurs, les gens qui aiment manger des huîtres ou les gens qui aiment venir au bord de la mer, ce sont aussi des gens qui aiment se baigner. Et ils ne pourront pas continuer à se baigner longtemps dans des eaux dont les qualités de baignade n'est pas terrible. Donc je pense que chacun à notre niveau, il faut que vraiment on avance tous ensemble sans attendre un énième rapport. Et je pense que les discussions d'aujourd'hui ont été assez fortes et assez fondamentale pour qu'on revienne à ce qui est le plus important, comme le disait Pierre Molot tout à l'heure, c'est la qualité du phytoplancton.
Bonjour, Sylvie Lapec de l'IFREMER. Je voulais remercier les deux derniers intervenants de leur présentation, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. J'avais une petite question pour une précision, en fait. J'ai cru comprendre que vous intéressiez aux espèces, aux races plutôt locales ou en voie de disparition, ce genre de choses patrimoniales. Et donc, quand on parle de l'huître bretonne née en mer, on parle de l'huître plate ou de l'huître creuse? Et où?
Réponse. En fait, on s'était la certification s'était intéressée aux deux productions. On avait fait les deux.
Question, remarque, commentaire, silence. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur Viau, je vous voyais pas.
Voilà, c'est juste une petite correction pour madame Imbert. La francisation des huîtres, c'est pas un mois, c'est 6 mois. Et puis, je vous remercie, mais à Marraine de Léron, on n'a pas 3 IGP, on en a une, c'est déjà pas mal, qui couronne toute la production. Et quand vous faites appel à des marques privées, vous avez cité quelques noms, tous les producteurs ne s'inscrivent pas dans des démarches qualité. C'est un choix volontaire que de s'inscrire dans une démarche qualité. Donc, il y a des gens qui commercialisent leur production sous une propre appellation. Ça, c'était mes quelques réflexions. Et puis, nos produits sont transparents. Les dénominations, les catégories, les classifications, tout ça, c'est bien déterminé. On ne travaille pas dans l'ombre. Tout ça, c'est contrôlé sanitairement. C'est suivi par les services de l'État. Et tout ça, on peut pas laisser penser que les huîtres sont livrées à la consommation sans aucun contrôle et sans aucune directive, quoi. Voilà, je tenais. Puis si vous voulez plus de renseignements, je me tiens à votre disposition au Comité national conchylicole pour vous expliquer tout ce que fait les 7 comités régionaux avec des appellations différentes, aussi bien sur les huîtres creuses que sur les moules. Voilà, tout ça, c'est bien cadré.
Florence Imbert, dans le micro, s'il vous plaît, excusez-moi. Florence Imbert.
Un produit sensible, c'est tout. Et que donc, il y a une méfiance du consommateur, et quelquefois, ça engendre des phobies alimentaires, parce que c'est un produit qu'on mange vivant, cru. Et qu'il y a une méfiance, parce qu'on sait que qu'il y a des gens que ça rend malade, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire... Ça ne veut pas dire que les huîtres ne sont pas contrôlées, que la qualité sanitaire des huîtres avant commercialisation n'est pas contrôlée. Bien entendu qu'elle l'est. Et elle l'est même parfois abusivement, dit la profession. En ce qui concerne les IGP, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a trois types de dénominations qui ont une IGP. C'est toujours IGP Marraine-Oléron, mais c'est Pouce en clair, Fine et Fine de Clair. Voilà. C'était pas une incompréhension. Oui, oui, et qui ont l'IGP en même temps.
Comme dans d'autres bassins, vous avez aussi des clairs et des spéciales de clairs.
D'accord.
Et comme dans d'autres bassins, ils ne prennent pas l'affinage dans ces clairs, dans ces marais, et en l'appellation fine et spéciale. Mais
oui.
Toutes les zones de production sont identifiées, sont contrôlées sanitairement, tous les produits sont vérifiés aussi. Il y a une véritable trace à vie de ce côté-là.
En commençant par le professionnel lui-même.
Chaque ostréiculteur fait déjà les contrôles sanitaires chez soi en commençant à la base. Pour la vente au détail et au public, on est tenu de faire ces contrôles-là tous les mois. Par des laboratoires comme le laboratoire départemental d'analyse.
Bah donc ça confirme ce que dit Monsieur Viau, en fait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette espèce d'inquiétude, c'est ça qu'on sent dans ce, quand même cet après-midi et ce que viennent de nous dire nos intervenants.
Gastro et que donc forcément ça entraîne une méfiance des consommateurs. Tout.
Non mais attendez.
Alors Monsieur Reski rapidement et ensuite Monsieur, d'accord? Monsieur Reski, oui, ensuite monsieur. S'il vous plaît, nous écoutons.
Concernant le cahier des charges, j'ai oublié de signaler qu'il était contrôlé par un organisme extérieur et qu'on avait fait une centaine de contrôles, en plus de ce qui peut être fait normalement. Donc notre cahier des charges prend des contrôles faits par l'extérieur.
Non, mais là, on parle de deux choses différentes parce que là, on parle de sanitaire. Donc là, on est aujourd'hui, c'est pas pour cette question-là qu'on est là. C'est la question de des huîtres nées en mer ou des huîtres d'écloserie ou triploïdes. Et donc la question, nous, alors c'est clair, en tant qu'ostréiculteur traditionnel, si j'adhérais à l'association, c'est exactement pour les raisons énoncées à la fin. C'est-à-dire que on s'inscrit dans un truc où moi j'élève pendant 3 ans au même endroit les huîtres. Bon, y a pas d'histoire, il y a eu un transfert en essaim, voilà. Et après, on s'inscrit dans un truc de localité, de tout ça. Et qui fait que c'est la démarche du travail avec le naissin naturel et je veux dire toute la tout le travail qui est fait avec ça, toute la filière. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher, enfin ce qu'on, moi j'ai adhéré au secteur traditionnel parce que c'est la seule manière de pouvoir expliquer au consommateur. Donc le consommateur, il le demande, hein, attention, hein. Le consommateur le demande. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on n'a rien pour le faire reconnaître. On a nous, on a des consommateurs sur les marchés qui nous le demandent. Donc oui, ben on le fait, mais on aimerait bien avoir l'État qui soutienne. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout à l'heure, il a été dit que on compare l'huître triploïde aux élevages. On dit la triploïdie sur le saumon, sur la crevette. Est-ce qu'on veut arriver à ces élevages identiques au saumon, tout ça? Bon, c'est clair que nous, on a la chance à l'huître d'avoir un produit. C'est une espèce intrusive. Vas-y, pardon, invasive. Mais du coup, on a la chance de A à Z à avoir une nature qui nous, pour l'instant, qui marche comme ça. Moi, les écloseries, j'ai rien contre, honnêtement. C'est-à-dire que qu'il y ait des écloseries pour travailler sur des reproductions, sur des manières de voir comment on reproduit, quelle évolution on peut éventuellement amener. Mais la problématique, c'est le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui. Et la fameuse formule tout à l'heure, dire on compare et on les huîtres dans le luxe dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui c'est ça quoi, les huîtres triploïdes, grosso modo, ça part en Irlande, ça grossit là-bas, ça revient, ça repart en Russie, ça truc. Voilà. Bon, quel modèle aujourd'hui on veut développer? Bon, c'est pas, il y a pas que ça, hein, mais c'est aujourd'hui un des schémas utilisés. Donc quel modèle aujourd'hui on veut en ostréiculture? C'est clair qu'on se rapproche plus de, on est dans des unités à 3, 4 hectares, 2, 3 hectares, 4 hectares, en vente locale, voilà, on se rapproche. Et donc, l'huître naturelle est aujourd'hui garant de ça pour nous.
Voilà. 3, 4? Beaucoup, pardon? C'est très peu, d'accord. Monsieur Labat demandait la parole, ensuite Patrick Leduc, et ensuite Monsieur Marissal. Et chacun d'entre vous, bien sûr, court et concis. Alors, monsieur là-bas.
Une petite remarque et ensuite une question. Ce qui est assez éclairant sur les trois interventions, c'est qu'on a eu d'abord madame Imbert qui alertait sur la possibilité de trop informer le consommateur pour avoir un risque derrière sur le marché. Et à la fin, Lucia et Juliane qui ont, eux, mis en avant le fait qu'il fallait avant tout avertir et éduquer, entre guillemets, le consommateur. Donc, je pense qu'on a vraiment aussi deux façons de voir qui se télescopent, qui est assez essentielle. Et au milieu, on a M. Reski qui nous dit que Carrefour ne vend ce que le consommateur lui demande. Alors, j'ai peut-être la bêtise de penser que Carrefour influence un petit peu le choix d'achat de ses consommateurs via l'argent qu'il doit dépenser en publicité et en marketing. Et ma question va s'adresser à lui. C'est est-ce qu'en 92, la problématique triploïde était déjà sur le tapis, ce que je ne crois pas, quand ils ont fait le choix d'une filière diploïde sur le FQC? Et si aujourd'hui, il y a une communication sur le FQC sur le fait que FQC est diploïde. Là, moi, je l'apprends aujourd'hui, par exemple.
Monsieur Reski répond ensuite.
J'ai pas la réponse. La crise de 92, c'est ça? Non.
Quand vous avez mis en place le cahier des charges...
Oui, c'est en 92 la première filière, et c'était sur de la boucherie. Ça fait 17 ans sur là.
Ma question, c'est est-ce que quand vous avez monté la filière qualité Carrefour, c'était avec des ostréiculteurs qui ne vous produisaient que de la diploïde à l'époque, ou est-ce que...
On n'a rien changé. De toute façon, on ne change pas les cahiers des charges, sauf s'il y a une évolution qui nous dit qu'on peut travailler sans antibiotiques. Sinon, on ne change pas le cahier des charges. On est resté sur un choix. Le problème, c'est qu'on n'a pas voulu l'annoncer, parce qu'on n'a pas à mettre... on pense qu'il ne faut pas avoir de message anxiogène, et que derrière ça, si on parle de triploïde, je pense que la profession y perdra, et nous, on perdra du volume. Au global, on perdra du volume dans un premier temps. Donc voilà. Non, mais je connais pas le deuxième temps, mais je sais par expérience que les crises qu'on a connues, quand il y a un message anxiogène, et là le client, et je reprends un petit peu, c'est que...
Dans le micro ici, triploïde,
ça ne veut rien. Aujourd'hui, nos clients ne connaissent pas ce type. Et la crise, elle n'est pas via le client pour l'instant.
Merci, monsieur Reski. Alors, monsieur Leduc, monsieur Marissal. Et ensuite, j'aurai une question là-bas. Excusez-moi. Ah, vous avez bougé, madame? Ah bon, alors, elle sera là-bas. Monsieur Leduc est toujours court.
Oui, très court. Hein. Simplement pour lui dire qu'il n'y a pas que les clients qui ne savent pas ce que c'est que les diploïdes. Il y a même également les personnes des rayons poissonnerie de Carrefour. Hein. Moi, je demande chez moi si c'est des diploïdes ou des triploïdes. Le gars, il me regarde avec des yeux. Donc, résultat, je vais acheter mes huîtres ailleurs.
Je suis en accord avec vous.
Rassuré, hein. Je suis désolé. D'abord, simplement, deux petits points. Un point, d'abord, une rectification sur quelque chose que j'entends depuis le début de l'après-midi sur le problème de l'huître est une espèce invasive. Hein, d'abord, le CV, un terme qui est tout à fait impropre, parce que un procédé invasif, c'est un procédé qui vous fait pas de mal quand vous l'utilisez. C'est un terme médical, c'est simplement traduit de l'anglais. Le titre exact, c'est les espèces exotiques envahissantes. Hein, qui sont à traiter. Alors, on raccourcit ça parce qu'en anglais, c'est invasive species. Mais il ne faut quand même pas, je dirais, un petit peu pousser, parce que dedans, il y a exotique envahissante. Hein. C'est-à-dire que l'huître, soit une espèce exotique, c'est indiscutable, mais elle n'est pas envahissante dans la mesure où on définit le mot envahissante, une unité qui est capable de se multiplier au détriment du milieu dans lequel elle se produit. Ce qui, jusqu'à preuve du contraire, ben, je ne connais pas de milieu complètement détruit du fait de la présence de l'espèce huître. Alors c'est une espèce exotique, ça c'est vrai, mais ça n'est pas une espèce exotique envahissante.
Alors c'était un point du Muséum d'Histoire Naturelle.
Et alors simplement je voudrais revenir sur quand même le problème, parce que c'était ça, c'est le problème de l'étiquetage. Hein. Oui, très court, parce que Alors, on essaye de le refuser en disant c'est anxiogène, etc. Moi, je ne crois pas qu'informer le consommateur soit quelque chose d'anxiogène. Le problème aussi, c'est sur quoi est-ce qu'on va l'informer, hein. J'ai parlé tout à l'heure parce que le problème des moyens qu'on a de contrôle. Je suis désolé, une huître triploïde, on peut parfaitement, c'est très facile de contrôler si c'en est une ou pas. Je veux dire, même pour un certain nombre, on peut le faire à l'œil nu, hein, donc il n'y a pas besoin de gros matériel. Bon, des fois, il faut le matériel, non, mais je ne dis pas à tous les coups, mais quand même dans un certain nombre de matériel. Et c'est ça qui est important, alors que c'est vrai qu'élevé en mer ou à partir d'un essaim, si les deux sont diploïdes, c'est un petit peu plus compliqué. Et de dire que ça représente de la traçabilité des problèmes, etc., et où il y a des impossibilités, j'entendais tout à l'heure un intervenant qui disait, qui parlait des poulets, regardez, qui prenait l'exemple des poulets, je rappelle que tous les œufs que vous achetez, dessus c'est marqué 0, 1, 2 ou 3, selon qu'ils sont biologiques, élevés, etc., et que, bon, il y a probablement un pourcentage de fraude, ça, faut pas se faire d'illusions, mais apparemment il n'est pas gigantesque, et le consommateur a parfaitement la possibilité de s'informer, et je n'ai pas entendu, il y a encore quelques éleveurs de poules qui disent que c'est un scandale, que c'est du travail supplémentaire, mais l'un dans l'autre, ils ont survécu.
Éric Marissal, et ensuite, Madame Penezzi voulait prendre la parole. Et après, on aura une question là-bas. Monsieur Marissal.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait monsieur qui fait des huîtres naturelles et qui est très content de son travail, de son métier et de son produit. C'est une démarche qu'au syndicat des écloseurs nurseurs, on respecte à 100%. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, ce que je voulais aussi faire remarquer, c'est que faut regarder. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la même approche du métier d'ostréiculteur. Je ne vais pas contester la chose. Bon, on ne cherche pas à nuire non plus. Bon, ils présentent une stratégie qui me paraît très respectable. Mais maintenant, si on l'étend un petit peu, si on agrandit un peu, si on prend de la hauteur, et si on regarde le marché mondial, il faut savoir quand même que, bon, on est quand même un pays qui fait partie des sept premiers pays du G7, et on est quand même un pays qui, techniquement, développe son économie. Au niveau mondial, il se consomme à peu près 4 500 000 tonnes d'huîtres. Évidemment, beaucoup sont consommées en Chine, mais néanmoins, il se consomme 4 500 000 tonnes d'huîtres. Et ce sont des huîtres qui, la plupart du temps, sont issues du captage sauvage et qui sont développées par des techniques d'élevage. Aujourd'hui, en France, on a, avec l'IFREMER, les laboratoires de référence en pathologie et en génétique les plus performants au monde. En matière d'écloserie, on a les écloseries les plus performantes au monde. En matière d'élevage, on a les élevages les plus performants au monde. En termes de savoir-faire, on a les éleveurs les plus performants au monde. Et si on regarde les aspects sanitaires et les aspects organoleptiques et la façon de manger les huîtres, on présente au niveau mondial la référence mondiale, la French Touch. Les huîtres à la française se vendent 10 fois plus cher que toutes les autres huîtres au monde. Alors ce que je voulais dire quand même, c'est que certes, on peut avoir des points de vue différents, et qui sont tous respectables, mais il ne faudrait pas oublier aussi que la France est un pays qui doit développer son économie, et qu'aujourd'hui on possède les meilleurs atouts sur le marché international, que ce soit en commerce extérieur ou en possibilité de conquérir les productions mondiales. Donc voilà, je voulais simplement préciser ça, parce que je pense que c'est un élément important dans la décision politique, et se tirer une balle dans le pied et discréditer aujourd'hui la production de triploïdes en France, c'est quelque chose qui va être perçu immédiatement à l'étranger et qui va disqualifier les potentialités économiques de la France.
Madame Penazzi.
Oui, par rapport à l'étiquetage, deux points très rapides. Première chose, il faut que, je l'ai dit comme ça, les consommateurs se réveillent aussi. C'est-à-dire que l'huître, c'est un produit vivant, donc effectivement, peut-être quelqu'un mange une huître qui et a pris un peu de chaleur, il mange une huître, ces jours-là, c'est un peu plus fragile au niveau de l'intestin, et il est malade après. D'accord, mais il faut savoir, l'huître, c'est un produit vivant. On a l'habitude d'aller manger dans des restaurants qui nous servent de la tambouille, qui font de la cuisine d'assemblage. On est là, on est content, on mange pour 25-30 euros. On mange vraiment du n'importe quoi, assemblé, tel quel. On mange partout pareil, de la tarte tatin réchauffée, etc., etc., etc. Et on réagit pas. Donc aussi, à certains moments, il faut se réveiller, il faut se réapproprier de ce qu'on met dans l'assiette. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Par contre, pour faire cela, on a besoin d'informations. Donc, l'étiquetage, oui. Si le consommateur veut manger une huître triploïde, il peut le faire. S'il veut manger une huître diploïde, il peut le faire. Il ne s'agit pas de donner, bien sûr, un message anxiogène. Au-delà de ça, nous, on parle à Zolo Food d'étiquettes narratives. On le fait pour plein de produits. C'est des étiquettes. Bon, bien sûr, c'est long à mettre en place. C'est pas institutionnalisé, mais c'est des étiquettes où on raconte comment le produit a été fait, d'où il est issu, qui l'a produit, comment il a travaillé, l'éleveur, le agriculteur, le pêcheur, etc., etc., etc. Donc, bien sûr, il faut donner le plus d'informations possible au consommateur pour qu'il ait un choix libre. Si vous mangez une huître au mois d'août, il peut manger l'huître au mois d'août, mais qu'il sache voilà, qu'est-ce qu'il mange.
Julien Pondaven.
Oui, si vous me permettez un parallèle avec les OGM, parce qu'on est un peu dans un cas similaire. Il y a une notion, Carrefour en 2012 a fait une enquête auprès des consommateurs pour connaître leur perception des OGM. Bon, l'enquête a démontré que 80% d'entre eux n'en voulaient pas dans leur assiette, et plus on les questionne sur le sujet, plus ils en apprennent et moins ils en veulent. Et dans le sondage aussi, tester le rapport, la question entre qualité et OGM. Et pour 63% des consommateurs, de mémoire, à vérifier, eh bien, un produit de qualité, c'est un produit sans OGM. C'est indiscutable, même s'ils n'ont pas forcément tout le bagage scientifique. Pour eux, il y a une relation. Et qu'on retrouve sur le territoire aussi, parce que moi, je vous donne juste une anecdote, mais on a travaillé, nous, avec le blason Prestige Label Rouge, donc des boucheries charcuteries qui distribuent de la viande limousine. Et puis, les bouchers étaient souvent interrogés par leurs consommateurs en disant « mais il n'y a pas d'OGM dans les animaux que vous nous vendez ». Les bouchers dirent « bah non, on est une filière qualité ». « Ah bon, bon, d'accord, ok ». Puis bon, au bout d'un moment, les bouchers ont commencé à poser la question en haut, puis là, on leur dit « ouais, non, on n'est pas sûr ». Enfin, bref, au bout de 2 ans, ils étaient passés en sans OGM avec une certification, parce qu'ils voyaient bien que toute leur stratégie de marque était mise en danger par cette question-là. Quoi. Donc, il faut vraiment l'anticiper. Et plus le consommateur en saura, et plus il vous posera des questions, c'est évident.
Madame, tout au fond, et ensuite ici.
Oui, moi, je pourrais conclure, après avoir fait pendant presque 3 ans une enquête de terrain, rencontrant des ostréiculteurs, à la fois naturels, à la fois des ostréiculteurs qui travaillaient des triploïdes, et puis toute la chaîne jusqu'aux producteurs et ensuite poissonniers, écaillés et chefs cuisiniers. L'idée, pour conclure, c'est que l'huître, c'est un produit qui fait rêver. Et aujourd'hui, on en est avec les oppositions entre les tomates que vous trouvez sans goût dans les supermarchés et les tomates de maraîchers, un combat qui est entre les semenciers et les maraîchers qui n'ont pas le droit de produire des choses naturelles. Pour l'huître, vous en êtes à ce moment où on peut se poser cette question. On a droit au naturel, mais le naturel, il faut le valoriser. Vous avez toute la campagne des vieux légumes, des légumes oubliés, etc., qui sont chez les consommateurs, mais chez les chefs cuisiniers. Et moi, j'ai pu rencontrer 6 grands chefs cuisiniers qui ne savaient absolument pas ce que c'était qu'une huître triploïde. Ils sont démarchés par des commerciaux et des ostréiculteurs et ils vont aux produits qu'ils trouvent meilleurs et plus avantageux dans leur pratique. Le consommateur n'a pas forcément l'impression que c'est un produit qui fait rêver, qui a des goûts différents dans toute l'année, des goûts différents dans tous les terroirs. Si chaque ostréiculteur se considérait, traditionnel j'entends, se considérait comme un artisan et mettait en avant son produit avec son cœur et la façon qu'il a de le penser, je pense qu'on n'en serait pas à cette opposition entre naturel ou pas naturel, puisqu'il y a des poulets, on achète des poulets qui sont des poulets certifiés ayant vécu dans la nature, et d'autres dans les grandes surfaces. Je crois que le consommateur n'est pas assez informé, et il faut lui donner tous les éléments, mais ça part de la base. Et il faut communiquer, moi j'essaye de le faire, et communiquer aussi avec les médias, c'est très important.
Merci.
j'avais pas prévu de me lever. Rebonjour, Stéphanie Programneuil. Je peux pas laisser, je réagis juste en tant que citoyenne. Je peux pas laisser Monsieur Marisol et le syndicat de la conchiliculture. Il faut que vous soyez effectivement visionnaire. Il faut que vous anticipiez. À aujourd'hui, on a des résultats scientifiques, le professeur Sultan, qui prouve que les pesticides ont un impact sur la santé et sur le développement de nos enfants. On ne peut pas, à aujourd'hui, sous le joug d'un poids économique, dire « ben non, on va pas faire de l'étiquetage ». Je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas entendre ça en tant que consommateur, en tant que mère de famille. Et je négocie des huîtres. Et à aujourd'hui, mes clients réclament des huîtres de captage naturel. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas confiance. Peut-être que votre travail est très juste et très propre. Mais à aujourd'hui, la demande des clients n'est pas forcément celle-ci. Voilà.
Bonjour, Olivier Le Gall, ministère de l'Agriculture, DGPE. Je voulais juste savoir approximativement quel était le pourcentage des ostréiculteurs dits traditionnels par rapport à l'ensemble des ostréiculteurs.
Monsieur Viau, peut-être. C'est un peu plus de 60, je ne sais pas. Monsieur Viau.
Je suis très embêté dans cette question. Je vous ai dit qu'environ il y avait 60% des ostréiculteurs qui travaillaient avec les deux produits de différentes façons, certains ne les produisant pas, mais les commercialisant. Voilà, c'est pas, je peux pas vous répondre sur un nombre exact d'ostréiculteurs. Je pense que même qu'il se pourrait très fortement qu'il y ait une majorité d'ostréiculteurs qui fait du captage naturel, mais dans ces 60%, il y a des gens qui commercialisent les deux produits. Moi, c'est mon cas, si vous voulez. Dans ma production, j'ai pas d'huîtres d'écloserie. J'ai pas d'huîtres d'écloserie dans ma production. Mais il n'empêche que j'en commercialise. Je fais un peu d'export et ce produit m'est demandé à l'exportation. Et, pardon ? Triploïde, oui. Ah. Mais moi, j'ai tout. Enfin, c'est à titre personnel que je parle là. Hein. Je quitte ma casquette de représentant professionnel. Moi, j'ai toujours affiché les deux, si vous voulez. Alors, ça ne me pose pas de souci.
Voilà. Au fond...
Mais par contre, je vous réponds, sur les pesticides, l'étiquetage triploïde ou 8 naturel ou l'appellation que vous voulez n'est pas lié avec les pesticides. Attendez, là...
Non. Alors, bon, monsieur qui demandait la parole la veut finalement, et là-bas, ça sera au dernier rang. Et le temps tourne un petit peu, je surveille l'horloge.
Jean-Marie, j'ai rien à voir avec la conchiliculture, j'ai juste un lien commercial dans ce milieu et que j'ai découvert il y a moins d'un an. J'ai écouté tous les débats d'aujourd'hui et l'étiquetage, j'ai l'impression que l'étiquetage va arriver comme le messie pour sauver les problèmes de la crise qu'il y a dans la conchiliculture. Bah, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, d'un avis extérieur, puisque je ne suis pas dedans, moi. Moi, j'ai l'impression que l'étiquetage va résoudre les problèmes que vous avez dans les problèmes de crève, de casse, sur les... C'est un autre problème, voilà. Mais
attendez, laissons-le parler, s'il vous plaît.
C'est de vision d'extérieur, c'est l'impression que ça va donner, alors que la triploïde ou la diploïde, ou enfin les huîtres naturelles ou la triploïde, c'est autre chose. Et que... C'est l'impression que ça m'a donné, en tout cas, de vous écouter, d'écouter ce milieu-là, puisque maintenant que j'y rentre, c'est aussi la raison pour laquelle je suis venu aujourd'hui écouter.
Mais du coup, ça vous paraît pertinent, l'étiquetage, ou vous pensez que c'est un faux débat, en fait ?
L'étiquetage, oui, c'est important, mais moi, cet hiver, je vendais des huîtres sur une étale. J'étais auto-entrepreneur. Et quand je vendais mes huîtres, j'avais des huîtres qui venaient de manière naturelle, des huîtres d'accroche de rocher de la baie de Carroyal. J'en avais qui venaient de Marennes, du Fabrice Tessier, un ostréiculteur. Et j'avais de la triploïde aussi. Mais j'étais complètement transparent sur toutes les huîtres que je vendais. Je leur expliquais le cycle naturel de ces huîtres qu'on a sur la baie de Carroyal, qui sont complètement aléatoires. En 6 mois, en 4 mois, ça s'est vu, hein. Un coup, elles perdent leur grain, un coup, elles leur prennent. ainsi de suite. Et les gens sont beaucoup plus attachés à la destination d'où elles viennent que plutôt de savoir si c'est des triploïdes ou des diploïdes. Les gens, s'ils veulent du gras, ils achètent des Gilardo, ils achètent des David Hervé. Ils savent même pas d'où ça vient. C'est comme du champagne. Voilà, c'est exactement comme le champagne. Vous voulez du bon champagne, vous achetez un champagne de marque. Après, vous allez chercher le petit producteur. Voilà, mais ça se sent que le milieu est en train de se formaliser, de se chercher. Et en tout cas, c'était très intéressant de vous écouter.
Au dernier rang, madame, je ne vous vois plus, c'est d'accord. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà.
Bonjour, moi-même je ne suis pas de ce milieu, je le découvre depuis quelques mois. Je crois que pour résumer le débat, toute la complexité, il est qu'aujourd'hui, des ostréiculteurs, ou en tout cas des négociants, mélangent dans une même bourriche des triploïdes et des naturels, enfin nés en mer, et qu'aujourd'hui l'étiquetage est un cornélien, parce que finalement, aujourd'hui, ces gens, ces négociants, n'ont que pour seul but d'augmenter leur volume à n'importe quel prix. Donc c'est pas un problème seulement, le problème d'étiquetage, c'est qu'aujourd'hui il y a un énorme business, et cet énorme business fait qu'on est, pour pouvoir assouvir la demande, on fait ce mélange. Et c'est là le vrai problème, plutôt que de savoir si on doit l'étiquetage, c'est parce qu'aujourd'hui il y a le mélange, et ça, pas beaucoup d'ostréiculteurs sont uniquement ôtés. Voilà.
Est-ce que je peux me permettre une question ? Est-ce qu'on n'est pas une problématique un peu comparable à celle du saumon, qui dans le temps était quelque chose de rare et de luxueux et de sauvage, est devenu, avec les fermes d'aquaculture de saumon, un produit quasiment de grande diffusion, mais qui du coup, c'est non seulement banalisé, mais aussi a perdu en qualité avec l'industrialisation, les pesticides, etc. Peut-être, monsieur Marissal, est-ce que je vous pose la question, si vous en êtes d'accord ? Parce que c'est la question que je me pose très, très, très naïvement. Dame demandera si elle a le droit d'exister. Je ne sais pas qui répondra là-dessus. Bon, Monsieur Marissal, la comparaison avec le saumon, est-ce que c'est pertinent?
C'est une excellente comparaison pour moi. Je vais essayer de ne pas régénérer de polémique. Vous comparez avec le saumon de pêche. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, moi, quand je suis né, et quand j'étais jeune, je n'ai jamais pu manger de saumon parce que c'était beaucoup trop cher pour mes parents. Puis les Norvégiens ont mis en place une expertise extraordinaire en aquaculture. Et au début, ils ont fait du très mauvais saumon. Parce qu'il était trop gras, il était trop traité aux antibiotiques, il était mal nourri. Bon. Et évidemment, les volumes ont augmenté de manière importante. Ça s'est industrialisé, ça s'est développé dans tous les pays du monde. Ça a représenté quelque chose qui est devenu un grand enjeu financier international. Et aujourd'hui, vous dites que effectivement la production de saumon est industrielle, mais en même temps, tout le monde peut manger du saumon. C'est pareil pour les crevettes. Hein. On ne mangeait pas de crevettes il y a 40 ans. Mais laissez-moi
finir. Attendez, laissez finir, s'il vous plaît. Et après, il y aura une intervention là-bas.
Mais la pression des associations de consommateurs, la pression des opposants à l'industrialisation du saumon, les grandes surfaces, etc., ont fait que les producteurs de saumon et industriels, si vous voulez, les huîtres, on les nourrira jamais comme on nourrit les saumons, hein, attention. C'est important à savoir. Mais les producteurs de saumon sont aujourd'hui dans des démarches de qualité et dans des démarches de sélection et qui, de façon à obtenir, pas tous, il y a toutes les gammes, mais aujourd'hui vous trouvez en saumon d'élevage, puisque vous ne trouvez plus de saumon sauvage, à part le coho canadien qui, lui, est un saumon de mauvaise qualité. Mais vous trouvez aujourd'hui, les démarches qualité sont mises en place et vous trouvez sur le marché des saumons très haut de gamme dont la qualité organoleptique et la qualité sanitaire et la qualité diététique est au moins égale à celle qu'était la qualité du saumon sauvage il y a 50 ans.
D'accord, merci. Alors, monsieur tout au fond demandait la parole et ça reviendra à madame qui se demande si elle a le droit d'exister. On essaiera de trouver une réponse à cette question. Monsieur d'abord, et le temps tourne et Joël Labbé se prépare à rentrer dans le stade pour conclure cette journée. Monsieur.
Juste pour répondre à l'intervention précédente, au début du XXe siècle, il y avait des pétitions des ouvriers de la vallée de la Seine refusant le saumon à la cantine parce qu'il y en avait trop. Donc en fait, avant d'être apparemment un plat de luxe, ça a été surtout un plat de grande consommation et l'appétit de certains pêcheurs voulant empêcher toujours plus, je ne fais pas de parallèle avec, des sujets d'aujourd'hui, ont fait que le saumon a disparu de la Seine et de la plupart des grands fleuves français. Donc je pense qu'il y a peut-être un parallèle à avoir avec l'appétit de certains intrants dans les filières qui en veulent toujours plus, et à la fin, que ce soit à la pêche que je connais bien, mais à la fois sur le saumon norvégien, on ne peut pas parler de réussite aujourd'hui, arrive avec des aberrations à la fin. Voilà. Donc en fait, tout ça pour conclure, c'est sur la modération de nos consommations.
Madame, s'il vous plaît, merci beaucoup à Cyrielle. Et après, monsieur.
Donc voilà, quand on entend parler certaines personnes, on a l'impression que les petites entreprises n'ont plus le droit d'exister. C'est le problème de l'industrialisation. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, ceux qui ont le temps de recevoir le public, que ce soit les enfants, les collèges, ce sont les petites structures qui les reçoivent. Et pas les grosses. Et on passe notre temps à informer les gens, les enfants, pour leur dire comment on travaille. Et la chance que l'on a de travailler avec un produit naturel et élevé en mer. Et on est fiers de notre produit. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand on parle de l'étiquetage, ça dérange beaucoup de personnes, parce qu'on parle d'une tradition, l'ostréiculture. Et que eux, quand ils parlent de leur métier, la tradition, des fois, ça les dérange. Parce qu'il y a un petit mélange, et qu'après, personne n'ose s'afficher exactement dans la pratique du travail qu'il fait.
Merci, votre voisin. Et je crois que ce sera le dernier intervenant.
En fait, au niveau de... nous, si on demande l'étiquetage, il y a deux grosses raisons. C'est que déjà, on se dit que moi je veux pas entendre le truc anxiogène, tout ça. C'est-à-dire que moi, le consommateur, je le respecte. Donc, je suis hyper clair avec tout. Voilà. C'est-à-dire que je dis comment je fonctionne. On a les gars depuis longtemps. On dit où est-ce qu'on fait le captage, les 3 ans d'élevage, ça. Donc, c'est la clarté du consommateur. Alors, moi, quand on dit du consommateur qui s'intéresse pas, et si on lui donne pas les outils pour qu'il puisse s'intéresser, c'est vrai que c'est un peu... Donc, faut dire le maximum. Et l'autre truc, du coup, c'est aussi le rapport à la super productivité. Et du coup, on compare avec le saumon d'élevage. Et là, c'est flagrant, quoi. C'est-à-dire qu'en Norvège, ils nourrissent aux pesticides, à l'arrosoir, je veux dire. Donc, si ça vraiment, c'est... Si c'est ça un modèle, donc voilà. Et donc du coup, moi j'ai une question quand même à Monsieur Tristan Renaud.
Il est parti.
Merde.
On lui transmettra, posez-la toujours.
Il y a quelqu'un d'autre dit Frémer, je crois.
Parce que le... Non, il n'y a pas de problème, c'était une question très cordiale. C'était de demander l'autre volet pour lequel on veut, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les écloseries, donc ils produisent des milliards, vous m'arrêtez si je me trompe, vous êtes à 1, 2, 3, les écloseries, je crois qu'il y a 1 milliard de larves, donc réunis, c'est peut-être, je sais pas combien, 2, 3, 4 milliards, on ne sait pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune instance de contrôle. Et ma question, quand on fait, alors là, on sort de la triploïde, quand on fait de la diploïde sur 500 millions de larves, par exemple, qu'on va mettre dans les bassins naisseurs, il y a forcément une influence sur le milieu. Et ma question, c'est, du coup, on n'a pas été le mesurer, et je voulais demander à Tristan Renaud s'il pensait qu'il pouvait y avoir des influences d'une essaim d'écloserie dans reproduction sur le milieu naturel. Est-ce que chacun, moi, par exemple, si je décide de monter une écloserie, je peux faire des reproductions, décider d'aller les mettre dans les bassins naisseurs, à ma guise, de choisir le père et la mère et de faire ce que je veux. Voilà.
Nous lui poserons dans une autre instance. Le temps court vraiment maintenant, donc Monsieur Reski a une dernière parole très courte, et ensuite... Monsieur le sénateur du Morbihan, vous conclurez dans un temps odieusement limité. Okay. Monsieur Reski, rapidement.
Oui, simplement, nous, on a décidé de ne pas mettre naturel, parce qu'on pourrait, je ne sais pas si on peut utiliser le terme, mais nous, nos huîtres FQC, on est pratiquement, et donc il n'y a aucun problème pour nous par rapport à ça. Donc est-ce que c'est réellement différenciant par rapport au métier que vous voulez valoriser je pense que nous, en masse, on est capable de répondre, et je pense qu'on est dans la bonne logique. Et la deuxième chose, c'est concernant le saumon. On ne peut pas dire quand même que le saumon, aujourd'hui, il y a des efforts qui ont été faits. On n'a pas retrouvé les volumes suite à la crise, mais il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits, et nous, on vient de lancer le sans antibio. Alors, il y a très peu de temps. Donc je pense qu'il y a vraiment des efforts qui sont faits et on retrouve une superbe qualité. En sachant quand même que quand il y a un risque, enfin l'enseigne est capable de prendre la décision d'arrêter soit des premiers prix, soit les poissons de grand.
Non, je suis désolé, parce que je crois qu'on a tous très bien travaillé cet après-midi. Il nous faut encore entendre la difficile conclusion que va esquisser Joël Labbé dans une situation polarisée, mais en tout cas, moi je tiens à remercier à la fois l'écoute qu'ont eu chacun et le fait qu'on ait pu avoir une vraie discussion.